Conférence Forum d'être parmi les premiers à soutenir cette initiative et faire que le débat s'ouvre. Notre objectif, hein, c'est de soutenir pour que Miro réussisse. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Je rappelle que notre association, c'est une association qui regroupe un forum, c'est-à-dire qui regroupe à la fois des industriels, des services numériques, qui regroupe des consultants, etc., mais qui regroupe aussi toutes les grandes banques, les fintech, etc. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, d'une part, les gens puissent échanger, s'informer, réseauter tout ce qu'ils souhaitent, et puis aussi promouvoir aussi l'industrie française des paiements au niveau européen et inversement des solutions européennes les promouvoir en France, c'est le cas aujourd'hui avec EPI, et on souhaite aussi participer activement aux orientations et décisions de place en France et au niveau européen. Voilà, j'en dirai pas plus, je reviendrai en conclusion un peu sur notre sujet, et je vais passer la parole immédiatement à notre grand secrétaire général.
Non, tu dois présenter nos intervenants,
c'est donc c'est moi qui présente les intervenants. Ben oui, mais est-ce qu'ils sont tous là d'abord? D'abord que j'ai reçu ce matin un message de Corinna Fontaine me disant qu'elle a un empêchement majeur et qu'elle ne pourra pas être des nôtres. Et donc nous accueillons nos autres orateurs et puis ils ont fait un petit signe pour dire qu'ils sont bien là. Donc Laetitia Dorla, donc qui est directrice de la Business Acceptance France pour EPI, merci beaucoup. Marianne Lee, je n'ai pas vu arriver. Marianne, tu es là? Sœur Marianne? Non. Bon. Donc Marianne Lee, qui est directrice de stratégie et relations de presse, et elle est aussi, je rappelle, présidente du CFOMB, donc directrice des noms d'amitiés. Didier Barré, qui est responsable donc, du programme de pays chez Worldline, hein, mais qui est aussi le Business Design. Merci d'être là avec nous. Et Vincent Duval, qui est CEO de Playlib, jusque au 31 décembre, si j'ai bien compris Vincent, mais qui va nous expliquer tout ça. Alors, est-ce que là, Yves, je peux te passer la parole?
Tu peux me passer la parole, c'est bon, j'espère que vous m'entendez bien. Et effectivement,
on est 71, 62, bon voilà, on a plus que ça.
C'est parfait, j'espère que Marianne va arriver. Donc Marianne, comme tu l'as rappelé, est aussi la présidente du CFONB et j'en suis un des vice-présidents. Donc, on va aujourd'hui évidemment aborder Wero, et on est tout à fait dans le temps puisque ça a été annoncé il y a moins d'un mois. Hein, il y a Marianne qui m'appelle, mais tant pis. On va avoir quatre parties dans cette rencontre. Une première partie qui sera très pédagogique où on va expliquer la genèse et puis pourquoi est-ce que tous les acteurs sont rentrés dans EPI et dans Wero. Une partie sur le déploiement, sur comment va faire le déploiement et comment vont faire les subdivisions de certains moyens de paiement actuels. Ensuite, on va parler dans la partie 3 de l'écosystème et des clés de la réussite pour Wero. Dans la quatrième partie, on va revenir un petit peu sur France Paiement Forum, puisqu'on va regarder tous ensemble comment est-ce que France Paiement Forum peut soutenir le projet. On aura une partie questions-réponses à la fin, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat, ou alors on les prendra à la fin. Et puis on aura enfin la conclusion par le président avec Hervé. Voilà. Et je vous propose de démarrer tout de suite sur la première partie. Et donc, on va commencer avec Laetitia. Est-ce que tu peux nous retracer la genèse de pays et puis tous les choix qui ont été faits sur le form factor, sur le scheme et sur toute cette et aussi sur la cible.
Merci Yves. Bonjour à tous. Donc je suis ravie d'être présente aujourd'hui avec vous et je remercie France Télé Forum pour cette invitation. Alors, si on devait retracer un petit peu l'histoire de PEI, donc European Payment Initiative, on se remet quelque part en arrière et on revient à l'époque du Covid. Donc EPI est né pendant le Covid et s'appelait EPI V1 avec l'ambition de lancer un scheme carte. Ce scheme carte n'a pas été le choix retenu parce qu'on a fait le constat fort que un réseau carte aurait demandé beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie et avec la vision de se dire qu'on n'était pas forcément sur une solution de paiement time to market. Il faut savoir que le marché a beaucoup évolué et un scheme card aurait demandé beaucoup d'investissement. Donc l'ambition était quand même extrêmement partagée par tous les acteurs initiaux et c'est pourquoi l'envie a été de continuer sur l'envie de poursuivre sur une solution de paiement souveraine et européenne a été néanmoins conservée. Et à partir de là, l'ambition s'est manifestée à travers un EPIV2 et l'ambition de lancer un scheme basé sur du virement instantané. Avec l'envie de pouvoir apporter aux citoyens européens un vrai moyen de paiement. Ce moyen de paiement, il est né en fait à travers un paysage extrêmement fragmenté. Comme vous pouvez le voir sur la slide qui apparaît à l'écran, ce sont plus de 45 solutions domestiques qui sont possibles en Europe. C'est-à-dire qu'on soit en France, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, tous, on a un moyen de paiement radicalement différent. Et pourtant, il faut être conscient que l'Europe est un vrai marché structuré. Et pourtant, on utilise des solutions de paiement qui viennent du continent américain ou des solutions de la package. Donc, chaque plaque a ses champions et en Europe, on n'a pas de champions. Donc c'est fort dommage parce qu'aujourd'hui on est un continent avec une richesse incroyable et l'envie de pouvoir offrir aux citoyens européens une solution de paiement souveraine, unique et standard est clairement posée. Elle est posée par ses actionnaires, on verra un petit peu plus tard, et elle est posée parce qu'aujourd'hui ces solutions elles sont toutes locales, ça fait beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Et pourquoi ne pas mettre tout ça en commun pour lancer une solution de paiement unique? C'est dans ce paysage en fait que EPI V2 apparaît. Et ce EPI V2 s'est manifesté à travers une marque grand public qui s'appellera Wero, dont on entend de plus en plus parler, et qui signifie WE, le nous, et la monnaie euro. Donc Wero, c'est la symbolique de cette ambition, la symbolique de 1. D'avoir une solution souveraine européenne, 2. De pouvoir se dire qu'on a un moyen de paiement unique et une interaction unique, et 3. De se dire surtout qu'on est en lien avec un marché qui a évolué et qui a bougé, et un marché qui souhaite être de plus en plus sur des standards de paiement instantané. Je voulais aussi rajouter que EPI V2/WIRO, c'est l'ambition de lancer un moyen de paiement qui soit présent sur différentes échelles, à la fois sur du P2P, à la fois sur du e-commerce et à la fois sur du paiement en magasin. Donc trois étages à la suivre et qui commencent à prendre forme, à se concrétiser depuis quelques semaines. Donc dans cette histoire, ce sont 16 actionnaires qui sont réunis. 16 actionnaires qui ont mis en commun leur savoir-faire, qui ont mis en commun leur savoir-faire, leur base commune aussi de clients. Et pour un principe clé, c'est qu'aujourd'hui, il est fort dommage de se dire qu'on crée de la valeur et que cette valeur, elle bascule de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté en Asie. Et cette valeur, elle va pouvoir rester sur le continent européen pour pouvoir innover, investir montrer que l'Europe était forte sur ce volet, on va dire, paiement. Est-ce que l'Europe mérite d'avoir sa propre solution de paiement au regard de la richesse que représente notre continent? C'était le premier mot que je voulais...
Merci Laetitia, c'était très clair et très précis. Alors en France, on avait Pascal Licorne, ça s'appelle toujours d'ailleurs Pélib, et puis Pélib, lui, a décidé de rentrer dans Wero et de prendre le train, et puis on a Vincent qui va nous expliquer quelles sont les motivations pour aller rejoindre Wero.
Micro, voilà, excusez-moi, bonjour à tout le monde. Oui, tout à fait, comme l'a expliqué Laetitia, ce paysage fragmenté, on est dans une logique de rechercher une convergence en Europe. Alors même si Wero démarre pas sur l'intégralité de l'empreinte européenne, on démarre quand même sur une empreinte à 5 pays que l'on veut être un embryon suffisamment large pour qu'on puisse venir y agréger évidemment dans le temps d'autres pays. Alors, le point important, c'est qu'on ne fait pas ce mouvement pour les transactions cross-border. Hein. C'est pas le cœur de la motivation à faire Wero. Le cœur de la motivation à faire Wero, c'est que sur le marché des wallets, la concurrence à laquelle on fait face, c'est clairement des deep tech aujourd'hui. Au début, c'était plutôt des fintech, donc des approches, on va dire, locales, domestiques, pouvaient faire l'affaire. Mais maintenant, on voit bien que le jeu commence à se structurer. Les wallets sont maintenant face à des deep tech, hein, les Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, PayPal. Voilà typiquement la concurrence à laquelle on fait face. Et face à des acteurs avec ces capacités d'investissement extrêmement importantes, il nous semblait assez clair que pour porter les évolutions fonctionnelles et les investissements qu'on allait avoir à porter sur les 10-15 prochaines années, c'était certainement pas en fragmentant l'investissement autour de 45 wallets qu'on aurait la capacité à véritablement faire face. D'où l'idée, hein, véritablement, de mutualiser ces efforts d'investissement. Voilà, je précise ce point parce que parfois, j'entends dire « Oui, mais bon, pourquoi on s'embête à faire un projet européen si c'est juste pour gagner du cross-border ?» Alors certes, le cross-border, il vient avec, mais véritablement, la motivation n'est pas le cross-border. Si on avait juste voulu du cross-border, vu le nombre de transactions qu'on a en cross-border, on aurait pu faire des passerellisations, ça aurait été largement suffisant. C'est d'ailleurs le choix pour l'instant de certains wallets, notamment italiens et ibériques. Ils démarrent avec des solutions en interopérabilité de leurs solutions. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, qu'est-ce que Pélib va apporter là-dedans? Fondamentalement, le départ lancé de Wero en France. Pélib, c'est... Une grande réussite sur le segment du P2P, hein, si je vous donne quelques chiffres, c'est sur l'année, là, on est à plus de 6 milliards d'euros de transactions, on a 35 millions de personnes inscrites à Pélib, et véritablement, c'est cet usage en France très installé que l'on amène à Wero. Alors, on peut le mettre au présent, puisqu'on a déjà commencé à basculer deux banques à plus de 90% aujourd'hui en Wero, hein. C'est Banque Populaire Caisse d'Épargne d'une part et Crédit Agricole qui aujourd'hui ont véritablement basculé leur trafic de Pélib en cette plateforme à nouvelle plateforme désormais Wero.
Ben, justement, Marianne nous expliquera un petit peu, puisque c'est Crédit Agricole et c'est une des premières banques à avoir basculé. On le fera dans la partie 2. Pour l'instant, je vais plutôt revenir sur les acteurs, et on a deux acteurs qui sont membres fondateurs de CI avec nous. On a Marianne Lévy, côté du Crédit Agricole, et puis tout à l'heure, je laisserai la parole aussi à Didier pour Worldline. Marianne, quelle a été la démarche et puis pourquoi est-ce que le Crédit Agricole est rentré comme quasiment toutes les grandes banques, enfin même toutes les grandes banques françaises, dans le PI et puis après la cible Wero qui est vraiment effectivement pour l'instant très très axée remplacement de Paylib, mais qui a aussi d'autres ambitions. Marianne.
Voilà, le coup du mute, pardon.
Voilà.
Sachant que j'avais déjà fait le coup du retard à l'animal, donc pardon d'avoir loupé le début de la présentation de l'équipe, hein, qui était mal calé. Mais l'essentiel, c'est de participer. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion ce matin, que ça fait quand même quelques années que, au titre de représentant des banques, je parle des pieds et de la solution. Et je crois que c'est. La première fois, finalement, puisqu'il y a encore un mois, ce n'était pas le cas, que je le fais sur une solution qui n'est plus juste du tradeware, mais qui tourne, qui fonctionne, et effectivement, Vincent l'a dit, côté Crédit Agricole, on en a en toute tranquillité, j'allais dire, finalement, basculé de l'ensemble de nos clients avec une transition qui s'est bien passé de pays vers bureau. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour répondre à ta question de pourquoi est-ce lié, la vraie question c'est pourquoi est-ce que le Crédit Agricole croit à l'initiative Wero depuis le début. Et je sais que ça a quand même été une grande aventure et que ça fait peut-être 4 ans que vous entendez parler de pays, que vous lisez la presse, les hauts, les bas, etc. Et là maintenant, tout ça c'est derrière nous et c'est concret. Alors pourquoi on y croit depuis 4 ans? Parce que quand on est dans une grosse banque qui est considérée comme systémique en Europe, finalement, on ne peut pas ignorer l'appel du pied parfois insistant que nous font les pouvoirs publics et le régulateur pour traiter de la problématique de souveraineté. Alors vous le savez, on a un temps pensé qu'on pouvait enfin se doter d'un système de cartes européen, mais malgré ça, la souveraineté, ça veut surtout dire disposer d'un moyen de paiement pan-européen. Et un moyen de paiement pan-européen vu du régulateur, à la limite, il se moque presque totalement, dans la mesure où il est souverain, du sous-jacent qui va être utilisé. Il veut juste qu'en termes d'usage, on ait un instrument de paiement sur lequel nous soyons souverains et indépendants d'acteurs américains ou chinois. Et ça, c'est atteint, et c'est en train d'être atteint avec Wero. Donc, pourquoi le Crédit Agricole est dans Wero? D'abord pour cette responsabilité, j'allais dire presque citoyenne, hein, que nous avons tous. Vous n'ignorez pas la campagne, hein, payer CB, c'est payer français, payer Wero, c'est payer européen. Voilà, je fais un petit mimétisme, mais c'est tout bêtement ça. Le deuxième rationnel, et pardon de faire la banquière en disant ça, c'est vraiment un sujet d'intérêt. Je veux dire, la souveraineté voulue par les pouvoirs publics, c'est très bien, évidemment, on y adhère, mais c'est aussi parce qu'on est convaincu du potentiel de la solution, et de son potentiel à deux niveaux. D'abord, ça ne nous a pas échappé qu'en 4 ans, le paysage a quand même bien changé dans les moyens de paiement, et que tout le monde, y compris de grands acteurs que je ne nommerai pas, a commencé à avoir le potentiel, parce que nos clients le demandent, de solutions basées sur de l'account to account. Parce que c'est ça, l'avenir des paiements, parce que petit à petit on y vient, parce qu'on parle d'instantanéité, de souveraineté, nos clients veulent que ce soit simple, quand ils suivent et qu'ils sachent qu'au moment de leur compte, on débite un compte de payeur, on crédite un compte de payer, et c'est pas plus compliqué que ça, et c'est ça que veulent nos clients. Donc ça, c'est notre première conviction. La deuxième conviction, puisqu'on en revient à de l'instrument souverain, c'est, moi je suis board member de l'EPT, voyez, donc je suis très investi dans le fait de faire en sorte que les films SEPA, les films du SEPA en général, soient un succès. Mais les films du SEPA, et notamment le SEPIM, et quoi qu'en pense le régulateur de la BCE, il n'est pas fêté aujourd'hui. Il n'est pas, clairement, il n'a pas été pensé et conçu pour couvrir tous les cas d'usage du site B aujourd'hui, et notamment les effets qui meurent par hasard. Et qu'est-ce que fait EPI ? Il permet ça. Et ça, c'est l'énorme valeur ajoutée, parce que la massification, pour que nos clients l'adoptent, on a besoin de l'usage, et on a besoin de l'usage en site B, en commerce et en proximité. Et ça, sans Niro, le régulateur, avec le SCPIN, ce texte, il ne l'a pas. Et troisième petit item, et j'en terminerai par là, qu'est-ce que nous apporte Wiro ? Il nous apporte un modèle économique équilibré. Parce que nos clients veulent des choses, les marchands veulent aussi des moyens de paiement simples, etc. Mais plus on n'a pas un modèle économique équilibré dans lequel tout le monde trouve sa juste place, et on n'est pas en train de créer des structures qui vont raboter les marges de tout le monde, loin de là. Mais il faut que chacun ait son modèle de rémunération. Et en ayant obtenu, d'une certaine façon, un modèle économique tamponné par le régulateur qui nous permet d'être, que ce soit incitatif pour les banquiers de payeurs que nous sommes en apportant des clients qui sont prêts à payer à l'instant payment, alors là, oui, l'euro a posé toutes les tailles. Et vous avez le rationnel en trois étapes de la raison pour laquelle une banque peut être à fond et soutenir Wiro. Je dirais un dernier point, il n'y a pas d'opposition entre le public et le privé, mais très sincèrement, on est quand même plus à l'aise quand on a la main sur quelque chose qu'on a pensé, conçu au plus proche de nos clients, que quand le régulateur nous conçoit et qu'on doit ensuite, nous, en tant que banquier, pour consulter le petit privé. C'est toujours mieux d'être à la manœuvre, et en tout cas, c'était le rationnel pour le crédit.
Merci pour ce message sous-jacent. En tout cas, oui, comment Wiro, en fait, avec un sous-jacent technique que finalement le consommateur et même le professionnel, lui, il s'en fiche, ce qu'il veut, c'est avoir les avantages des moyens de paiement existants, et puis que ça marche, et si en plus c'est souverain, c'est encore mieux. Petite question complémentaire, Marianne, c'est aussi le point de vue, je pense, qu'on partageait, et puis les arguments qu'ont partagé l'ensemble des banques qui sont en fait dans le PI.
Absolument, c'est tout ce que je dis là, j'enfonce peut-être des portes ouvertes. Alors après, il y a des préoccupations et des points d'attention qui peuvent être différents selon les marchés, mais je pense que tous les banquiers et les autres au-delà, mais Didier le dira mieux que moi, tous les actionnaires qui sont à bord, et bien parce qu'ils croient en ce rationnel du potentiel d'une solution pan-européenne. Donc oui, après on est sur des priorités à la marge, on n'a pas tout à fait les mêmes que nos confrères allemands, mais sur ce rationnel-là, évidemment qu'on se retrouve.
Merci, et bien, évidemment oui, Didier, pour Worldline, qui n'est pas une banque, il y a aussi des intérêts sur la partie opérateur.
Alors, on n'est pas une banque, mais on est acquéreur, donc plusieurs
pays
européens. Et on est aussi fondamentalement quand même une société commerciale, donc notre objectif, c'est quand même de gagner de l'argent. Aller dans Wiro, c'est pas pour les beaux yeux des banques des autres, par exemple pour les beaux yeux des petites fermes Ludovic, Martina, ou même de notre ancien président et commissaire européen Thierry Breton. Non, si on y va, c'est parce qu'on est convaincu que cela va nous apporter quelque chose de positif à notre bilan et à notre compte de résultat, alors pas à court terme, mais à long terme, bien entendu, parce que cela va être un succès. Et je vous donne un exemple, un exemple du côté positif au compte de résultat. Si vous ouvrez le rapport annuel de The Worldline 2023, page 35.
Ah, c'est la même chose que j'avais dit, là. Oui,
mais ne l'ouvrez pas, mais il faut dire, il y a une ligne, il faut lire, il y a marqué redevance schéma de paiement. 724 millions d'euros. 15% du chiffre d'affaires de notre société. C'est-à-dire que nous, en tant qu'acquéreur, on donne tout ce montant-là
Écoutez, écoutez.
Les films internationaux, c'est un montant phénoménal. Et il y a une quinzaine d'années, je me souviens, quand je discutais avec mes camarades belges, parce qu'on est actuellement en Belgique, ils me disaient, tel film international, il nous prenne 5%. Et puis tel autre film international, il nous prend 10%. Maintenant, c'est 15,7% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les skins fees vont exploser. Et je vous rassure, ce n'est pas à cause de Banque Contact. Donc, ce qu'on espère avec zéro, et de toute façon, c'est le cas, les skins seront inférieurs. Et donc, globalement, que la moyenne des soucis que nous paierons diminuera. Donc, ça c'est quand même une première motivation qui est financière. Il y a une deuxième motivation. En tant qu'acquéreur, on était actionnaire de certains films internationaux, puis on en est sorti il y a quelques années. Et ne plus être actionnaire, ça veut dire qu'on a moins de poids dans les prises de décision. Et puis, on a plein de contraintes qui nous viennent de l'étranger, d'outre-Atlantique plutôt. Et là, avec Etik, eh bien, en tant qu'actionnaire, on redevient co-décisionnaire. Bon, alors, on n'est pas seul, mais on est 15 à décider, mais on est quand même 16 à décider. Et on est 16 à avoir des intérêts communs. Et ça, je pense que c'est le deuxième point important de l'aide. Alors, pour cela, pour qu'on arrive à baisser, pour qu'on puisse redevenir co-décisionnaire, que nos skin fees en moyenne diminuent, il faut que Véro soit un succès. On est tous convaincus que Véro soit un succès. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La première, vous n'avez pas vu de démonstration. Enfin, les quelques démonstrations qu'on a vues, la user experience de Véro est top. Ce que j'en ai vu, j'ai vu la tombe de Lola, c'est vraiment top. Et puis il y a aussi tout un ensemble de promesses de services qui vont être apportées au marché, qui sont hyper excitantes, donc qui ne vont pas arriver tout de suite. Hein. Et là, ça va mettre un petit peu de temps à arriver, mais ça va arriver sur le marché. Et j'ai envie de dire, actuellement, quand on paye, c'est difficile de payer autrement. On paye parce qu'on est obligé d'acheter un bien. Mais finalement, avec zéro, on va peut-être payer pour le plaisir de payer, tellement c'est fun de payer avec zéro. Et ça va faire que je suppose, enfin je suis convaincu, zéro sera un succès dans la vie.
Merci Didier, mais tu l'as dit, le succès il viendra aussi des commerçants, et puis si on a des fees inférieurs, ça va intéresser tout le commerce.
C'est évident que tous seront taillés en fees. Au bout du compte, ce sont les commerçants qui le repayent.
Exactement.
C'est le consommateur, in fine.
Et c'est le consommateur parce que, c'est de toute façon reporté sur la partie du consommateur. Merci. On va parler justement côté déploiement de nos héros en France et en Europe. On va parler d'agenda. Il y a déjà des agendas qui sont sur le site de l'EPI ou sur le site de Wero plutôt, parce que Wero a son propre site. Laetitia, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de la roadmap de déploiement de Wero, et puis après on verra après avec Marianne comment le Crédit Agricole lui a fait sa démarche de déploiement. Laetitia, je te laisse d'abord la parole.
Merci Yves. Juste pour rappeler un chiffre clé, en Europe, on est 4,5 millions d'habitants. C'est important d'avoir en tête par rapport aux États-Unis où ils sont 33 millions. Donc, c'est vraiment un marché unique qui mérite d'avoir son propre moyen de paiement. Et en termes de roadmap, on va aussi rappeler un deuxième point qui est EPI, ça part pas de zéro. C'est pas from scratch, entre guillemets. Ça va s'appuyer sur des vrais succès locaux. Vincent en a cité un, Delib, qui est un vrai succès local et un vrai succès local et pour le coup un héritage extrêmement fort. Mais on a aussi d'autres succès qui sont iDeal aux Pays-Bas, qui est la solution de paiement utilisée à plus de 75% par les Néerlandais en e-commerce. Et on a aussi Tekonic, qui est la solution de paiement en QR code en Belgique et au Luxembourg. Donc, on a, EPI a repris tout ça et a repenser un moyen de paiement unique. Et dans la roadmap, on s'est inspiré de ce qui a marché aussi à l'étranger. Et à partir du moment où on veut rencontrer le succès dans le monde, on va dire, des commerçants, et dans le monde, on va dire, où il y aura un vrai business model, on va d'abord démarrer par le P2P. Donc c'est P2P, c'est le partage d'argent entre particuliers. À partir du moment où j'utilise mon téléphone portable et j'envoie de l'argent via soit un QR code, soit un numéro de téléphone, soit un email. Donc je peux envoyer de l'argent sur ces trois profils et je peux surtout aussi, c'est assez novateur, il y aura la possibilité de demander de l'argent. C'est pas très dans la culture française, mais dans les pays au nord de la France, c'est très, très monnaie courante, on va dire. Et papa et maman, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent, s'il te plaît? Donc ça aussi, ça ouvre des portes. Donc le P2P sera la première étape clé pour atteindre cette masse critique, pour permettre l'adoption, pour permettre aussi, quand le bouton Wiro sera sur la page du e-marchand ou en magasin, que le consommateur ne s'interroge plus qu'est-ce que c'est. En fait, c'est toute cette pédagogie, tout cet usage qui va permettre après une fluidité dans les étapes suivantes. Et quand tu me parles de roadmap, Yves, donc la roadmap, on a donc dit P2P, l'étape numéro 2, donc le e-commerce, et le e-commerce arrivera en fonction des pays entre l'été 2025 et janvier 2026. Donc dans une période quand même très courte, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une puissance de frappe, une communication commune. Et ensuite, quand on aura monté ces deux étages, donc le P2P, le e-commerce, l'objectif, ce sera d'être déployé dans le monde physique, en magasin, à travers des magasins, soit des magasins, soit dans le service public, soit au musée, soit à la piscine, mais en tout cas, que ça puisse devenir, on va dire, s'inscrire dans les usages et les habitudes des consommateurs.
D'accord, oui, on passe de l'éducation avec du paiement P2P, personne à personne, vers l'éducation avec le e-commerce et ensuite de pouvoir le retrouver dans le commerce de proximité et donc d'avoir bouclé la boucle.
Rappuyer sur ce que je disais tout à l'heure, dans le parcours e-commerce, ce sera complètement novateur pour la France, puisque je n'aurai plus à rentrer les 16 chiffres de ma carte, les 3 chiffres au dos, la date de validité, et de valider auprès de ma banque que tout est bon, que c'est bien moi qui paye. L'objectif, ce sera d'avoir un QR code, de le scanner, et de valider que j'achète bien cette 5 commerçants à travers quel numéro de compte, parce que je pourrais choisir le compte sur lequel je souhaite être débité, et sur quel montant. Et ça, après, je valide cette transaction, et paiement, et conforme, en moins de 10 secondes. Donc c'est la promesse, c'est la valeur de cette nouvelle solution. Et ça, c'est vraiment une innovation, on va dire, dans le parcours qui fluidifiera complètement la vision du commerce.
Oui, ben, on viendra justement sur le choix du form factor. Et effectivement, on n'est plus dans un wallet de carte, on est dans un wallet de compte. Et donc, c'est pour le consommateur, il faut que ce soit la même chose, il faut qu'il comprenne bien cette partie-là. Marianne, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur la stratégie Crédit Agricole sur le déploiement?
Oui, alors je ne suis pas sûr que ce soit une stratégie Crédit Agricole en tant que telle, parce que c'est une stratégie de déploiement qu'on a conçue et imaginée tous ensemble et à thèse dans Wiro. Mais pourquoi on l'a choisi? Parce que on y reviendra plus tard, on y a peut-être fait allusion avant que j'arrive. Je sais que certains wallets, notamment du sud de l'Europe, nous agacent quand on est actionnaire de Wiro. Mais n'empêche qu'on n'est pas sectaire. Et on est capable de regarder ce qui marche. Et ce qui marche, c'est un parcours de déploiement qui a été éprouvé. Et le parcours, il est cadencé exactement comme le dit Laetitia. C'est pour ça qu'il y a évidemment, j'allais dire en termes de stratégie, dans les banques, on a la marge de manœuvre pour présenter nos développements. Mais ensuite, on reprend les facteurs clés de succès. D'abord du P2P, parce qu'on installe l'usage, et surtout, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Chez Michi, c'est ce qui a été la raison du succès de Célib. Ça permet quoi le P2P? Ça permet d'installer une marque et une notoriété de marque. Parce que les consommateurs se l'approprient, etc., et qu'on en a besoin avant d'attaquer la palette du commerce. Donc, là, on a fait comme tout le monde. Alors après, en termes de stratégie, effectivement, c'est intéressant de regarder le marché français parce que on est un certain nombre de banques à avoir fait le choix de traiter le P2P dans l'application bancaire, parce que c'est l'usage et que c'est comme ça que le faisaient nos clients, mais un de nos confrères s'est lancé dans le combat et a choisi de prendre la standalone app directement mise à disposition par Wero. Et ça, Vincent en a dit un mot tout à l'heure, c'est important parce que c'est ce qui fait de Wero un concurrent finalement qui va peser face aux GAFAM et notamment aux XP. C'est important d'être en wallet. Donc voilà pour cette étape de P2P. Après, on a scindé en deux, mais parce qu'on partait de la base lancée qui constituait Célib. Le scope du P2P, et on a commencé d'abord par du pardon dans notre jargon, mais Vincent connaît très bien ce terme, on a raisonné en ISO Célib, et puis ensuite on va rajouter les features qui font le P2P tel que le conçoit mon confrère. Parce que ça c'est important de le redire à l'étiquette à un petit. Nous on a appris en tant que banquier français à se familiariser avec un vocabulaire qui est courant pour nos confrères dans le nord de l'Europe. Vous voyez, les concepts en France de P2P pousse ou poule, ça c'est quelque chose qui n'était pas amusé pour un Français avant de commencer à travailler dans les P2P. Qu'est-ce que ça veut dire le P2P pousse et le P2P poule? Le premier c'est celui qu'on connaît, qui part du payeur vers le payé et celui qu'on a mis à neuf dans les P2P. Mais finalement, pour un Néerlandais par exemple, pour un Belge, ça marche d'office avec la demande d'argent. Et la demande d'argent encore plus novatrice par QR code. Donc ça, c'est encore devant nous dans la roadmap. Ensuite, on va, step by step, une fois qu'on aura installé la notoriété, la marque, l'usage, tout ce qu'on dit, et puis on démarre lancé parce qu'on amène quand même notre base de clients enrôlés, actifs, de Célib. Donc ça, c'est un vrai asset. De la même façon, d'ailleurs, que dans quelques mois, années, on demandera à nos amis néerlandais d'apporter aussi leur base de clientèle installée dans MyDeal, qui est un vrai succès aux Pays-Bas. On attaque le e-commerce. Alors, pourquoi est-ce que les Allemands vont probablement aller un peu plus vite que les Français sur le e-commerce? C'est pas une question de démotivation des Français ou de prendre de la marge. C'est simplement que on est en train de construire une infrastructure vraiment nouvelle sur le e-commerce parce que le caractère hybride de Wero ne nous a pas échappé. On crée un scheme qui va pouvoir couvrir les usages de la carte mais qui est basé sur des SDPI. Croyez-moi, dans les informatiques bancaires, c'est quand même très compliqué. Et donc on a ça à gérer, et puis ça ne nous a pas échappé non plus le caractéristique française, il faut qu'on réfléchisse sur le e-commerce des deux côtés. Parce que, Didier le disait tout à l'heure, il y a le sujet aussi de l'acquisition. Et les Allemands vont un peu plus vite parce qu'ils ne couvrent que le volet consumer, et surtout parce qu'on parlait tout à l'heure du rationnel de Wero. Ils partagent ce que je disais tout à l'heure, mais avec un impératif en plus. Pour eux, le e-commerce, c'est absolument clé, parce que leurs teams locaux, y compris de cartes, ont été largement cannibalisés par nos amis de PayPal, qui, effectivement, ont un peu trusté ces parcours en e-commerce. Donc, pour eux, c'était vraiment un enjeu d'arriver le plus vite possible. Pour les Français, ça reste vrai. Donc on est plutôt sur fin d'année 2025, début 2026, pour entamer le e-commerce. Et après, pour être tout à fait transparente, aujourd'hui, on a une roadmap ensuite pour adresser les clés de la proxy. Ça n'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'on considère vraiment que raisonnablement, il faut une approche étape par étape. Donc Déjà, faisons du e-commerce un succès, c'est un asset important. Où on en a besoin, parce que c'est là qu'on va apporter la masse, les volumes, etc. Regardons fonctionner le e-commerce et les habitudes de nos clients, et alors oui, effectivement, on commencera à travailler l'étiquette de la proxy, et là on aura atteint 100% de nos objectifs. Donc en termes de visibilité, et dans les banques, on sait gérer des projets pluriannuels, mais en général, on gère des roadmaps IT année par année. Donc pour l'instant, on est complètement focalisé sur l'échéance du e-commerce en fin d'année prochaine.
Merci Marianne. Et effectivement, on va amener des nouvelles habitudes de payer aux citoyens européens, puisqu'on va réconcilier enfin les habitudes des citoyens d'Europe du Sud et d'Europe du Nord. Et peut-être que, justement, Didier, tu peux peut-être nous dire un petit peu le déploiement en Europe, comment ça va se passer, et surtout la dualité Europe du Nord-Europe du Sud, telle qu'on les a déjà entrevues.
Oui, alors, pour compléter ce que disait Marianne, en Allemagne, pour payer sur Internet, on ne peut pas faire de paiement avec la carte Girocard, qui est la carte de débit domestique allemande. On peut faire des paiements avec les cartes de crédit, mais ce n'est peut-être pas ce que préfèrent les Allemands. Donc, du coup, ils n'ont pas eu trop eu le choix. Ils se sont abattus sur ce qui existait. Dans le passé, c'était PayPal. Et c'est toujours PayPal. Et PayPal, je pense que ça doit être environ 30% du marché du e-commerce en Allemagne. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle le post-payment, donc c'est plus des solutions type Klarna. Bon, vous recevez une facture, après avoir reçu le paquet à la maison, vous recevez une facture et vous avez peut-être une quinzaine de jours pour payer. Donc ça c'est très très utilisé, mais ça représente certainement tous les deux plus de 50% du marché allemand. Et puis on a la carte de crédit, c'est 10-15% du marché. Ce qui veut dire qu'un acteur comme nous, parce qu'on est acquéreur en Allemagne avec Paywall, donc on a plus de 50% du marché allemand de la Coring, quand nos moyens de paiement ne représentent que 13% du marché allemand, c'est pas beaucoup. Et avec Vero, on espère quand même augmenter notre part de marché en acquisition. Mais ça va permettre surtout Vero, aux banques allemandes, de reprendre la main sur PayPal et sur les moyens de paiement alternatifs. Qui ne sont pas bancaires. Et ça, c'est quand même le point cœur, je pense, en Allemagne. Alors, après, en Belgique, c'est un peu différent, parce que Laetitia le disait, en Belgique, ils ont Banque Contact Mobile et Banque Contact Téléconique. Ils ont Banque Contact. Ça permet de faire du paiement mobile avec du QR code. Et ce qui est étonnant, là, je regardais les chiffres en Belgique, Banque Contact Téléconique annonce plus de 300 millions en 2023 de transactions mobiles, si je ne me trompe pas. Et certainement 80-90% dans les paiements sur Internet. Ça veut dire qu'il y a aussi des paiements de proximité en scannant un QR code sur un TPE. Ça représente peut-être entre 50% et peut-être 75% des paiements sur Internet en Belgique. Donc pour eux, c'est vraiment important. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces volumes-là, comme les quatre banques belges principales sont actionnaires de Banque Contact également sur le Véro, petit à petit, les flux vont émigrer sur Véro. Donc c'est tout à fait positif concernant le succès à prévoir en Belgique. Alors, il n'y a pas que ces moyens de paiement-là, les ID, c'est vrai, qui marche très bien aux Pays-Bas. Et puis, il y a plein d'autres moyens. Il y a Bizum, il y a Switch, il y a Blik dans plein de pays européens, qu'ils soient des pays euros ou pas euros. Et accessoirement, dans les travaux initiaux qu'on avait effectués il y a 2 ans avec Epi, on avait déjà envisagé de faire des paiements cross-border avec des pays non-euros en devise. Et tout ça, ça a été imaginé. Ça veut dire que lorsqu'un pays l'un euro voudra intégrer Vero, les choses ont été pensées et je pense que ça se passera relativement bien. Alors on a aussi Twint, dans lequel on est actionnaire, donc c'est énormément de volume, puis bon, il y a toutes les autres solutions que vous avez présentées, et chacune de ces solutions ont une croissance assez phénoménale. C'est, entre 25 et 50% de croissance annuelle, donc c'est pas négligeable. une des raisons pour lesquelles il y a cette croissance, bah, c'est un, l'expérience utilisateur qui est très bonne, mais il y a une autre raison aussi, c'est le taux de conversion. Alors, on a un outil aux Pays-Bas qui est super bien, parce qu'on fait plein de paiements avec des moyens de paiement internationaux un peu partout dans le monde, et on a des meilleures transactions qui passent là-dessus, et on arrive à calculer le taux de conversion. Et le taux de conversion, donc pas que l'acceptation, l'authentification, etc., mais après, on s'assure bien que l'argent arrive sur le compte bancaire. Et ce qui marche vraiment très bien, il faut le reconnaître, hein, c'est quand même les XP qui sont quand même en tête. Et puis un peu plus bas, il y a les cartes de crédit internationales. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'entre les deux, on a la carte bancaire. Donc carte bancaire, c'est un très bon chiffre. Alors j'arrive pas à comprendre pourquoi ils font un meilleur chiffre que les cartes de crédit internationales, mais ils font un très bon chiffre. Et aussi entre les deux, mais plus proche des XP, il y a tous ces wallets qui ont un taux de conversion excellent. Ce qui peut expliquer cela, entre autres, du succès de ces moyens de paiement en Europe, chez les consommateurs et chez les Français. Excusez-moi.
Eh bien, il faut y prendre du temps, tous les bons côtés pour l'intégrer dans Wero, et je pense que ça doit faire partie de notre stratégie. On va revenir en France avec Vincent. Vincent, du côté justement de la migration, c'est la marche forcée entre Payliz et Wero. Du coup, on va éduquer le consommateur encore plus rapidement. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quels sont les outils et puis les stratégies de migration du côté de Paylib?
Alors, merci. Alors, non, on n'est pas à marche forcée. Hein. On fait les choses bien, on fait les choses calmement, mais on ne perd pas de temps. Voilà, on y va promptement, mais sereinement. Le but n'est pas d'y aller le plus vite possible. Hein. Je rappelle que si on fait Wero, c'est pour une stratégie de long terme, donc c'est pas pour faire de la précipitation. Ça, c'est extrêmement important. Alors, sur la stratégie de déploiement, notamment Marianne et Laetitia vous ont expliqué qu'on démarrait avec le P2P, notamment aussi parce que le problème des use case marchands, c'est qu'il y a le problème de l'acceptation qui ne peut exister que si les porteurs sont là, et les porteurs, ils ne peuvent venir que si l'acceptation est déjà en place. Donc, pour résoudre ce problème de poulet d'œuf, le P2P, c'est génial, parce que ça installe la base porteur de manière massive. Et une fois qu'on a une base porteur installée, ben, c'est quand même vachement plus facile d'aller voir des sites e-commerçants ou même des points de vente physiques en leur disant ben, les porteurs sont là, est-ce que et ils font déjà des transactions entre eux, est-ce que vous voulez être un bout réceptacle des paiements de l'autre côté? Et c'est beaucoup plus facile, évidemment, et c'est notamment les trajectoires qu'on a vues successful en Europe. Voilà, donc Paylib, on va véritablement apporter cet usage installé sur le P2P, donc le départ lancé. Alors, pour que ça fonctionne, ce départ lancé, eh bien, comme toutes les banques n'ouvrent pas en même temps, on a à l'heure où on se parle des banques qui émettent des Wero et on a des banques qui sont toujours en Paylib. Et ça ne pose pas de problème. Et pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce que avec l'ensemble des banques et Wero et Paylib, il y a eu cette coopération pour mettre en place la pastérisation nécessaire pour que les Paylib et les Wero puissent interopérer pendant la période de transition. Donc la période de transition qui va durer, qui a démarré là maintenant et qui va s'étendre jusqu'à février-mars à peu près de l'année prochaine. Voilà, donc compatibilité des deux solutions pendant cette période. Donc, vous faites un Paylib à un interlocuteur qui est en Wero, ou vous faites un Wero avec un interlocuteur qui est en Paylib, pas de problème, ça fonctionne. D'où l'expression de Marianne, on démarre sur un fonctionnel isopaylib. Ah oui, pour que ça soit compatible, on est sur un périmètre isopaylib. Et ensuite, une fois qu'on aura basculé l'intégralité des trafics, donc on est à horizon février-mars 2025, à ce moment-là, Wero viendra sur la solution, sur la plateforme Wero, ben, on viendra enrichir le fonctionnel avec toutes les nouvelles features P2P et e-commerce et magasin pour venir upgrader le produit. En substance, vous avez aimé Paylib, vous allez adorer Wero.
Merci, merci Vincent. Et effectivement, jamais de Big Bang avec le consommateur, sinon on les perd tous. Et donc là, c'est une très bonne stratégie d'appropriation. Je vais laisser maintenant la parole à Hervé sur la troisième partie, les questions clés relatives à Wero. Hervé, à toi.
Merci beaucoup, en tout cas merci à nos orateurs d'avoir tenu le timing. Il nous reste à peu près une bonne demi-heure à la fois sur les grandes questions hein, que soulève Wero, pour voir comment on peut l'aider à se développer et à réussir, et puis pour laisser la parole à tous nos invités pour qu'ils puissent poser des questions à nos orateurs. Alors, je vais avoir un petit comportement machique au début, parce que je vais commencer à donner la parole à deux hommes, hein, à Didier et à Vincent. Didier sur ce que j'ai appelé le fonctionnel, et Vincent sur le volet un peu plus technique pour qu'il nous éclaire bien le paysage. Donc, Didier, au plan fonctionnel, il y a un choix qui est ce que disait tout à l'heure Marianne, cette logique hybride entre le FCTI, c'est la demande d'auto, etc. Quel est l'apport de cette stratégie pour les paiements en France et en Europe d'ailleurs?
Oui, alors, donc pour Wero, le règlement entre le compte bancaire du payeur et l'acquéreur se fera par un FCTI. Mais bon, le SCTI, c'est un certain nombre de limitations. Donc, c'est instantané, c'est maintenant, on peut le programmer, donc il y a des payeurs qui valident. Mais ce qu'apporte Wero, c'est la demande d'autorisation. Alors, vous allez me dire, sur un paiement instantané, quoi ça sert sur une demande d'autorisation? C'est pas grand-chose, mais si en fait, ça apporte énormément. Dans le sens où il y a environ 12 plans de paiement qui ont été définis. De mémoire, il y en a 12. Et ces plans de paiement, c'est quoi? Bah, c'est une des plans de paiement très utiles pour le e-commerce. C'est-à-dire que je fais un achat maintenant, et puis j'achète deux livres sur Internet. Il y en a un qui est disponible ce soir, un qui est disponible dans 3 jours. Je ferai payer, je fais une demande d'auteur maintenant, et je ferai débiter ce soir du premier paiement, et dans 3 jours, du deuxième livre qui va m'être livré. Alors ça, c'est bien parce que, avec le SCTI, c'est quand même un petit peu plus compliqué à faire. Et ça, Wero a réussi à le faire. Mais ce n'est pas que le plan de paiement d'achat d'hiver, hein, c'est aussi mettre de l'essence dans sa voiture, on réserve une somme, par exemple 200 euros, puis finalement on ne met que 38 d'essence, si on prend des litiques que ce soit 30. C'est tout ce qui est minibar, vous allez à l'hôtel, vous oubliez de payer les bouteilles de coca que vous allez consommer, bah, hop, l'hôtel pourra vous payer. Et tout ça sera disponible avec Wero. Et en fait, Wero a réussi à mettre ce paiement instantané au niveau de la carte. Et accessoirement, avec cette garantie de paiement qui est apportée grâce à la demande d'autorisation, avec ces plans de paiement, on arrive à un système qui est peut-être même plus sûr que la carte. Et je vous donne un exemple, c'est Viability Shift. C'est-à-dire qu'avec la carte, il y a Viability Shift. Mais quand on fait du paiement fractionné, bah, selon les schemes, parfois, c'est le liability shift 3 des tours est limité à la première transaction. Avec Wero, la responsabilité sera portée par la partie émettrice sur l'ensemble du plan de paiement qui a été validé par l'utilisateur. Donc si l'utilisateur dit « j'accepte de payer 100 euros débité en 3 fois », qui peut être débité en 3 fois pendant une semaine, total liability shift côté émetteur. C'est hybride. C'est hybride, c'est pas du virement instantané, c'est plus que du virement instantané, c'est pas de la carte, mais c'est pas de la carte. Et le problème, c'est qu'on a les gens avec qui on parle, les professionnels, mes collègues dans ma société, parfois ils ont du mal. Ils me disent, bah, c'est du paiement instantané. Non, c'est pas du paiement instantané, mais c'est pas de la carte. Et en fait, on a besoin de mettre souvent un moyen de paiement dans une case, et c'est assez difficile. Alors déjà, c'est difficile pour moi en tant que professionnel, mais c'est difficile aussi pour le régulateur. C'est-à-dire que le régulateur, bah, qui a souvent un train de retard par rapport aux innovations, bah, je ne suis pas convaincu qu'il sache exactement où se raccrocher.
On va revenir sur le volet réglementaire. Mais donc sur le plan fonctionnel, on voit bien qu'effectivement, on va beaucoup plus loin que l'instant payment, qui pose quand même les questions de finalisation, on le voit avec le projet notamment, la question de pays, etc. Donc, il y a derrière ce complément indispensable qui permet d'apporter des garanties. Je me tourne vers Vincent sur le volet plus technique. Hein. Il y a beaucoup de débats sur les choix qui ont été faits, QR code versus NFC. Il y a aussi la question sur les form factors, les petits débats cartes physiques, voilà, etc. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu globalement sur tous ces choix, sur les enjeux de ces choix techniques?
Oui, ben, je pense que la technique n'est qu'un moyen. Il faut bien distinguer, d'une part, alors ce que moi j'appelle le moyen de payer, c'est-à-dire wallet ou objet physique, du moyen de paiement qui est quelque part le sous-jacent. C'est-à-dire, est-ce que le sous-jacent, à la fin, ça va être un protocole carte ou un protocole CTI. Alors, déjà, un point important, souvent on assimile le NFC au paiement carte et le QR code plutôt virement instantané. Alors, il n'y a pas forcément lien entre les deux. Hein. On peut tout à fait imaginer des solutions en wallet, QR code qui déclenche des cartes, et on peut aussi tout à fait imaginer des solutions NFC qui déclenchent des virements instantanés. Donc, il faut vraiment bien distinguer le protocole de communication entre l'objet que le porteur tient en main, typiquement le smartphone, et le TPE, et l'infrastructure commerçante, pour être au sens large, versus le moyen de paiement qu'on va déclencher dessous et que le smartphone peut tout à fait piloter, donc un paiement carte ou un virement instantané. Voilà, ça c'est pour éviter, on va dire, tout quiproquo qui peut y avoir là-dessus. Après, QR code NFC. QR code NFC, factuellement, il y a des... historiquement, on va commencer comme ça, historiquement, le NFC, et c'était toute la limite qu'on rencontrait dans Pélib, c'est tant que c'était pas ouvert sur NFC, c'était pas réaliste de penser que ça pouvait être complètement à l'échelle. Donc le QR code, c'était parfaitement adapté dans un monde où l'antenne NFC d'iOS était fermée. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'antenne NFC, elle est désormais ouverte. Donc ça repose complètement cette question du form factor du moyen de payer. Alors aujourd'hui, factuellement, il y a des complémentarités entre les deux modalités. Tous les commerçants n'ont pas un TPE. Le prof de yoga, il n'a pas forcément un TPE. Donc le QR code, c'est parfaitement adapté sur ces use cases. Parallèlement, le NFC, il est... quand il y a des terminaux de paiement, l'acceptation NFC, elle est déjà en place et elle est déjà massive. Donc, la bonne réponse est probablement de capitaliser sur les deux modalités. Et puis, si je peux, je pense que de toute façon, là où on peut être assez conclusif, c'est qu'in fine, c'est le client qui va décider. Le client, c'est avec ses pieds qu'il choisira la solution. Hein, il paiera avec une modalité ou avec l'autre. Et c'est important que, évidemment, dans les solutions que l'on propose en Europe, si on veut véritablement défendre cette souveraineté, ça veut dire qu'il faut qu'on capte les volumes. Et pour capter les volumes, il faudra bien que l'on déploie dans Wiro, c'est mon souhait, ou sinon dans d'autres modalités, des solutions qui sont à la fois QR code et NFC.
Surtout avec l'ouverture, l'accord Apple Commission, donc sur l'ouverture.
Ah oui, on a juste plus le choix. Oui. De toute façon, on voit les grands wallets font des annonces en la matière. Hein. Alors, les Allemands ont fait des annonces de déploiement de solutions NFC. Moi, j'espère qu'ils vont se rétracter et qu'ils vont dire on va les faire dans Wiro. Et puis sinon, on voit en Ibérie, Bizum va annoncer le lancement d'un Bizum Pay en solution NFC dans les prochains mois.
D'accord. Parfait. Sur les questions fonctionnelles et techniques, là, on vient de faire un point. Maintenant, on va se tourner vers nos femmes invitées et qui, elles, vont aborder les questions stratégiques, c'est normal. Marianne et Laetitia vont aborder d'abord les trois questions essentielles. La première, d'abord, celle que Didier a commencé à expliquer tout à l'heure, Marianne, c'est c'est celle de la réglementation applicable au paiement. Est-ce que c'est clair et pour le régulateur, et pour les commerçants, et pour les banques?
Je crois que c'est clair. À un moment donné, on est tous dans un cadre qui est celui aujourd'hui de la régulation PSD2. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Effectivement, les banques suivent et poursuivent deux régulations qui sont même qui vont arriver. Donc, d'un point de vue des banques, nous sommes évidemment en faisant écho conformes à la PSD2, au règlement IPR, et ensuite, on verra plus tard, parce qu'il y a un sujet aussi de, au moment où on lance le miro, on est sur des régulations au-delà, PSD3 et PSR, qui sont pas encore tout à fait sèches. Alors, dire aujourd'hui, même la Commission ne dirait pas aujourd'hui, vous êtes 100% conforme avec ces régulations-là, la question n'a pas de sens. Donc, on est dans un monde de PSD2 aujourd'hui où il n'existe dans les considérants de la PSD2 que trois moyens de paiement au sens des sous-jacents. Ouero a fait le choix de choisir l'un d'entre eux, c'est le SCPI, pour ses caractéristiques intrinsèques, pour les sujets de règlement. Et par contre, on a un team qui apporte dans un overlay tous les éléments complémentaires pour couvrir d'autres use cases que le SCPI ne permet pas de couvrir. Alors, en tant que team, Eddie, il a un double objectif. D'abord, croyez-moi, si ce n'était pas clair, je ne sais pas si c'est un privilège qui a été fait à Martina, mais défendre en termes de régulation d'un joint oversight qui fait intervenir 5 banques centrales, donc les 5 banques centrales de nos pays, hein, on est aujourd'hui, dans l'oversight des pays, on a la Banque de France, on a la Banque allemande, belge, néerlandaise et luxembourgeoise. Et dans ce joint oversight, puisque il y avait un sujet par rapport à notre frère néerlandais, nous avons convenu que la DNB, donc la Banque nationale néerlandaise, est un limite. Donc voilà déjà le cadre de régulation. Vous voyez que ce n'est pas un cadre dans lequel on peut faire tout à fait ce qu'on veut ou rigoler tous les jours. Ensuite, on a effectivement, et ça c'est une problématique dans les banques, on a le sujet qui va arriver en 2025, donc qui est de l'actualité immédiate pour Ouero, de se dire le SCP INT en termes de conformité, eh ben, c'est de la conformité au règlement IPR, et donc le Verification of KI fait partie du socle sur lequel va travailler Ouero. Et puis ensuite, effectivement, se posera la question, mais toutes les régulations existantes sur le PON, moi je peux vous dire que même tous les teams de l'EPT font une revue pour vérifier leur compatibilité avec la PSD3 ou avec le futur règlement PSR, et donc ça, Ouero est un team comme tous les autres. La deuxième caractéristique qui est propre à Ouero, pour ça, compliance à la régulation, c'est qu'il a un statut particulier vis-à-vis de la Banque centrale belge, qui est celui d'avoir, d'être immatriculé en tant qu'initiateur de paiement. Donc vous voyez qu'on en revient au périmètre très très clair de la PSD2. Pour pouvoir faire sa standalone app vis-à-vis de ses membres banquiers, Ouero a un statut d'initiateur de paiement et donc doit lui aussi répondre à toutes les exigences en termes de compliance en tant que tel et donc de sa compliance en tant que team. Donc vous voyez qu'il y a deux niveaux de sujet. Il y a évidemment la compliance des banquiers et des membres de Ouero au cadre de régulation qui est en place, et ça, pardon de dire, c'est pas de débat. Et puis ensuite, il y a ce que le team doit s'assurer pour lui-même au titre de la régulation sur ce qu'il peut faire ou non en tant qu'initiateur de paiement. Et on essaie de réunir les deux. Là où ça se rejoint, c'est que comme nous sommes en co-construction, nous sommes actionnaires et nous travaillons sur le team, il faut bien entendu s'assurer que tout ce qui est construit dans Ouero, le team, d'un point de vue overlay, pour enrichir le SCPI, ne nous met pas, nous, membres, en infraction avec la régulation. Et c'est ça le travail qu'on fait et qu'on mène sous ensemble pour aboutir à cette, ce style de paiement et cette manière de payer hybride à laquelle on adhère. Mais le point essentiel aujourd'hui par rapport à la régulation, c'est éviter pour le, l'animal particulier, avec tout le succès que Nathan pour lui est devenu épi, le risque d'être requalifié et tiré par le bas, j'allais dire, par une régulation, en disant « Ah, moi, dans ce que j'ai compris de la manière dont va fonctionner Wiro, mais en fait, c'est du direct débit, ou mais en fait, c'est de la carte. Parce que c'est justement ça qu'on ne veut pas. Donc voilà pour le point d'attention, le cadre de régulation.
Si tiens, vous voulez ajouter quelque chose, ou ça vous paraît... C'est bon. Alors, on va aborder un... Alors, on viendra peut-être tout à l'heure sur un sujet qui est la question de l'identité numérique, mais d'abord, la question, justement, Marianne, en tant que banquière, en France, la suprématie de la carte, aujourd'hui, les paiements courants, qui est vraiment, surtout, donc, comme on est dans l'année des 40 ans des cartes bancaires et tout ça, donc tout le monde le sait bien, on aura l'occasion d'y revenir le mois prochain, notamment avec l'événement de carte bancaire. Mais comment une banque française qui a déjà une solution très opérationnelle, comment elle va aborder cette question de la dualité entre Miro et paiement par carte?
Elle peut l'aborder avec un autre terme, en fait. Nous, du Crédit Agricole, on n'a pas une dualité ou une contradiction, on a une complémentarité. On est vraiment dans ce sujet de complémentarité. Complémentarité à deux niveaux. Vincent le disait très bien, ce que veulent nos clients à un moment donné, c'est un moyen de payer. Un moyen de payer, ça veut dire que dans un wallet, parce que c'est vers ça que tombent les paiements, pour l'utilisateur, pour nous banquiers, c'est super important. Pour nous industriels, c'est super important de savoir quels sont les rails, l'architecture, l'infrastructure, le modèle économique, etc. Mais pour le client lambda, si dans son wallet, derrière, le sous-jacent se débouche à l'IP ou en carte, ça fout complètement. Donc, on est vraiment dans cette approche de complémentarité déjà, dans un environnement digital. Et le deuxième niveau de complémentarité, ça ne vous aura pas échappé, c'est qu'aujourd'hui, nous, on gagne notre souveraineté en France par un skin card qui est fort et qui est souverain sur le marché français. Mais on n'a pas un échelon transbordeur. Et revenons à mon rationnel du début, si vous voulez bien, c'est évidemment ça que nous demande nos régulateurs, mais rien de plus. C'est de mettre à la disposition de nos utilisateurs un moyen de paiement qui soit pan-européen et effectivement qu'on fait avec EPI. Donc là aussi, il y a une complémentarité avec carte bancaire. Donc on la voit vraiment à deux niveaux. Il y a une sorte de complémentarité qui se fait par le digital et par le fait qu'à un moment donné, le support physique de l'offre, n'importe peu, et c'est juste les rails derrière qui vont jouer, et puis une complémentarité sur une souveraineté quand même, car 97% des paiements sont domestiques, donc on a de quoi assurer notre souveraineté en France, notamment avec cartes bancaires, mais aussi avec Wiro pour les usages complémentaires, et puis ensuite on accède à ce que nous demande le régulateur à l'échelle pan-européenne.
Très bien, alors un dernier débat. Marianne, peut-être que tout à l'heure Laetitia va y revenir, c'est l'arrivée future, éventuelle, certainement probable, de l'euro numérique que souhaite la Banque centrale européenne, qui fait l'objet de textes réglementaires, de projets de textes réglementaires qui vont être examinés, c'est pas à court terme, mais en tout cas dans les 15 à 18 mois par le Parlement européen. Positionnement donc de Miro par rapport à cette initiative des banques centrales.
C'est pour moi, du coup, tu m'avais promis, Hervé, de ne pas m'énerver avec ce sujet d'euro numérique. Donc, c'est bon. Là aussi, deux éléments de réponse. Tu as raison de dire que l'euro numérique, c'est un sujet où il est souhaité centrale européenne. Mais la Banque centrale européenne a aussi l'enjeu, quand elle pense à lancer un nouveau style et un nouveau moyen de paiement, parce que là, on coche vraiment toutes les cases avec cet euro numérique, et c'est important d'ailleurs de bien savoir où on se situe à chaque fois qu'on parle de paiement. Est-ce qu'on est un moyen de paiement, au sens de la régulation, est-ce qu'on est un scheme, est-ce qu'on est autre chose? Et l'euro numérique, il est tout ça. Moi, je pense, dans les discussions qu'on voit aujourd'hui, que la Banque centrale est quand même en train de se rendre compte qu'elle a une idée très très large, et donc elle regarde et elle commence à s'intéresser à la manière d'adresser, exactement comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour carte bancaire peut-être, une complémentarité avec les instruments de paiement qui seront déjà en place et déjà adoptés par les consommateurs. Et ça, pour le coup, c'est l'objet de mon deuxième point. Tu as raison de dire que l'euro numérique, on est à 15 ou 18 mois d'avoir quelque chose, un texte, une décision et tout ce qui va bien. Mais entre le moment où on aura ça, de la décision au texte totalement finalisé, avec tout le tuning qui va bien, et croyez-moi, tous les banquiers qui travaillent dans l'euro savent à quel point c'est quand même compliqué de réfléchir à tout ça et de voir tous les cas, parce que le diable se cache dans les détails. Et ensuite, on parle d'un moyen de paiement qui, s'il arrivait, serait live peut-être à partir de 2028, 2029, 2030, selon les roadmaps. Donc pour moi, la carte à jouer, c'est de s'assurer avec Wero, qui démarre en 2024, qui aura, si tout va bien, atteint un niveau spécifique entre mi-2025 et mi-2026, de faire partie de ces moyens de paiement existants et déjà dans le paysage pour que la Banque centrale l'identifie comme un sujet avec lequel il faut travailler justement la complémentarité. Donc on a deux choses à jouer. On l'a dit pour... Il y a tout un tas de raisons qui font qu'on a besoin de tenir la rentable, le planning des pieds, etc. Mais s'il devait y en avoir une de plus, même si ça n'est pour l'instant qu'une hypothèse au moment où on se parle, c'est le fait d'avoir occupé le terrain avec l'euro numérique. Et je vais partager peut-être avec vous une anecdote que je trouve intéressante par rapport à ça. Dans des réunions qu'on a eues, quelques banquiers de bureau avec la Banque centrale et sur ce sujet de l'euro numérique, la DG Compétition avait un point et un sujet qui était de dire ne commencez pas à nous parler concurrence, level playing field, etc. C'est de pur ignorance, comme peuvent dire les banquiers centraux. C'est-à-dire que maintenant, on est fin 2023, de début 2024, ne commencez pas à me parler de la suite. C'est pendant 2 ou 3 ans, vous avez la main. Et donc c'est ça notre responsabilité en tant que banquier et dans l'euro, c'est vraiment d'occuper le terrain avec un moyen de paiement pan-européen. Et le moment venu, on s'inquiétera. Et d'ailleurs, la Banque centrale le fait avant nous, commencer à regarder comment ça peut être complémentaire sur le marché. Et ça, on y travaillera.
Merci Marianne. Alors, Laetitia, pour cette partie sur le produit, son déploiement, les problématiques, une réponse d'ensemble, un peu de synthèse à la fois sur le volet déploiement, sur les grandes problématiques techniques fonctionnelles, sur les grands enjeux que vient de d'évoquer Marianne, un peu, et un peu les perspectives.
Merci Hervé. Peut-être pour synthèse, rappeler que Wero est à l'image en fait de notre monde qui bouge. Non seulement en termes d'évolution technologique, c'est important de se dire que Wero est né aussi à travers un wallet, parce qu'on voit bien que les gens sont de plus en plus attachés à leur téléphone portable qui devient un appareil central dans leur vie et le paiement ne peut être que la suite logique dans ce téléphone. Donc quand on veut un paiement, en fait, même quand on a une carte, ça se dématérialise dans un téléphone. Donc ça, l'évolution technologique est importante, surtout pour la prochaine génération. Ensuite, on est à l'image d'un monde qui bouge en termes de souveraineté. On voit bien que les questions de souveraineté sont de plus en plus cruciales et majeures depuis le Covid, à savoir en quoi on a la main pour gérer des industries qui sont clés dans le fonctionnement d'une économie. Ensuite, on est aussi à l'image d'un monde qui bouge par préserver. Aujourd'hui, on est tous soucieux, on voit bien que la préoccupation première de chacun, c'est de préserver son pouvoir d'achat. Et dans ce sens, c'est important de se dire qu'on a une image d'un mot de bouche, puisque ça répond à des questions fondamentales des commerçants qui disent « Moi, j'en ai marre de me faire, on va dire, spolier, voire hold-up par rapport à d'autres acteurs que je ne citerai pas. » Et on est aussi à l'image d'un monde qui bouge en termes d'internationalisation. Impossible de dire qu'on peut regarder que la France aller rester dans les frontières. Quand une entreprise veut évoluer, veut grandir, elle est obligée de regarder au-delà des frontières. D'aller chercher soit d'autres clients, ou les clients ont aussi ce souci d'aller regarder ces marques qui sont du côté de la frontière. Ça, c'est la première synthèse que je voulais partager. Et le deuxième point, c'est le challenge en résumé de Wero. Le Wero a plusieurs challenges à relever, donc je pense qu'on s'était dit un petit peu en préambule, à savoir l'adoption du consommateur en termes d'usage, en termes de masse critique. Donc là, on a notre rôle à jouer pour offrir les services qui ont autour, que ce soit du paiement plusieurs fois, du service par rapport au programme de fidélité des commerçants. Et on a notre rôle aussi à jouer entre nos partenaires bancaires, nos shareholders et nous tous en termes de communication. Donc je remercie déjà de ce point de vue-là beaucoup de nos shareholders, voire tous, ont joué ce rôle de relais et de caisse de résonance sur la communication. Et à partir de la semaine prochaine, plus de 18 françaises seront aussi, on va dire, mis en avant en termes de paysage urbain avec Wero qui viendra marteler cette nouvelle marque. Et l'autre défi à relever, c'est le modèle économique. Le modèle économique, il est clair qu'il est impossible d'entendre un moyen de paiement sans sécurité, sans confiance et sans modèle économique clair et équilibré. Donc le souci majeur, c'est de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas aujourd'hui, on souhaite, on va dire, un modèle équilibré pour tous les acteurs qui sont partie prenante du sujet. Les citoyens, le commerçant et tous les membres de l'écosystème qui contribuent à cette moyenne de paiement. Et enfin, le point sur lequel Hervé, tu voulais peut-être que je revienne, c'est les services à venir. On a une configuration et un état d'esprit pragmatique, étape par étape. On ne va pas se lancer dans tous les sujets, mais dans les services à venir, il est évident que l'euro numérique fait partie des trajectoires. Comme l'a dit Marianne, il faut occuper l'espace, faire nos preuves, et ensuite être identifié comme un acteur clé si on veut être le support de l'euro numérique. Au même titre qu'une autre monnaie ou un programme de fidélité. Et autre point aussi, bien sûr, quitte à être dans cette notion de souveraineté, de service et de sujet qui est vraiment prégnant en ce moment, c'est l'identité numérique. Parce qu'aujourd'hui, l'identité numérique, on est identifié dans la rue, très bien, avec notre carte d'identité, mais cette identité, quand on paye, elle a une vraie valeur. Beaucoup de commerçants me disent, moi j'ai besoin de savoir que la personne à qui je veux la payer est majeure. J'ai besoin de savoir, quand je suis une compagnie aérienne, qui je mets dans mon avion. Et là, ce moyen de paiement, il a tout son rôle à jouer pour identifier qui est derrière ce moyen de paiement.
Et là, c'est l'identité numérique publique ou c'est votre identité directe que vous utilisez?
Alors, il y a des initiatives qui se montent en ce moment pour pouvoir répondre à des projets en tant que public. Donc, on en sera un peu plus dans les mois prochains. Mais en tout cas, ce wallet que représente Wero a toute sa place pour pouvoir aussi jouer son rôle dans l'identité numérique du citoyen européen.
Et dans le wallet européen, associé à Wero, effectivement, c'est du gagnant-gagnant pour les jeux en ligne, pour la vente d'alcool, pour le transport aérien, pour toutes ces commerçants réglementés qui ont besoin d'avoir une identité numérique de fiable, de confiance. Et la seule qui est réellement de confiance, c'est quand même celle de la régalienne, qui est donc transposé dans le portefeuille européen.
On y reviendra puisque France Payment Forum va sur ce sujet élaborer un position paper. Ce que je vous propose, c'est d'aborder le dernier point qui donnait la parole. Alors, Je le dis pour les gens qui sont avec nous, nos invités, on a prévu d'un petit débordement éventuellement d'un quart d'heure, on va vous passer la parole, mais nous souhaitons effectivement demander à nos orateurs de nous indiquer comment nous, France Clément Forum, nous, acteurs de la sphère des paiements, quel que soit le statut, banquier, non banquier, industriel, consultant, nous pouvons faire, nous pouvons agir pour le succès de ce projet. Je vais commencer d'abord par Laetitia. Laetitia, qu'est-ce qu'une structure en une minute, pour que chacun puisse s'exprimer et passer la parole après à nos invités?
Alors, merci beaucoup. Moi, un mot-clé à retenir dans tout ça, c'est l'éducation et la pédagogie. Il est clair qu'on est à l'aube d'un monde qui bouge et qui change, et la pédagogie avec l'éducation, comme vous nous avez offert cette tribune, c'est un des meilleurs moyens. Donc, merci, et c'est vraiment le mot-clé que je retiendrai, éducation.
Très bien. Marianne?
Oui, moi je suis dans le même esprit. Le rôle de France Clément Forum et tu le fais, Hervé, sur d'autres sujets, c'est d'être une pièce de résonance. Donc, c'est à la fois l'endroit où on fait passer les messages de la réalité de la solution et où finalement vous êtes un tremplin pour construire la notoriété de marque, et c'est aussi l'endroit où on peut mettre le point, l'accent sur les sujets. J'allais dire, je sais que c'est une expression qui fait cher, mais mettre le pied dans le plat, quand il y a des choses à regarder et à creuser, c'est l'occasion souvent d'en débattre ici.
Merci, Didier.
Alors, je suis d'accord avec Marianne et Laetitia. Je vais revenir sur l'euro numérique, l'identité numérique, parce qu'en fait, bon, les banquiers sont concernés, les réseaux sont concernés, mais les acquéreurs et les prestataires d'acceptation technique sont aussi concernés. Il faudra le mettre en place. Et quand on regarde la complexité de l'euro numérique, tout ce qu'il y aurait à faire, vraisemblablement, plus l'identité numérique à faire, tout ça en l'espace de 3 ans, au bout du compte, ce sont les mêmes acteurs qui vont le faire. Et il faudra bien qu'un jour ou l'autre, les pouvoirs publics se rendent compte qu'on ne peut pas tout faire, tout en même temps, et que ça prend du temps. Tout prend du temps. Et là, tout s'empile un petit peu trop au même moment.
Merci. Vincent?
Alors moi, je vais rebondir sur le terme de Laetitia. Laetitia parlait d'éducation. Ça me paraît effectivement la première étape. Et puis maintenant que le pays, enfin que Wiro devient une réalité, je pense que l'enjeu, la mère de toutes les batailles, c'est évidemment le monde commerçant, hein, donc e-commerce et proxy. Le maître mot après l'éducation, une fois que tout le monde a compris, c'est implémentation. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Oui.
Hervé, oui, si tu me permets, en entendant Didier et Vincent d'ailleurs, je voulais rajouter un point par rapport à cet empilement de projets réglementaires, etc. C'était les paiements de veille, souvenez-vous, en juin dernier, donc du point de vue bancaire, on a toutes les régulations à mettre en œuvre. Alors, que les banques ne fassent pas pleurer dans les chaumières sur leur capacité à gérer tout en parallèle, parce que, y compris le régulateur, s'attend à ce qu'on le passe, soit. Mais je trouve que le problème qui serait peut-être à regarder, c'est quand on a plusieurs régulations ou plusieurs solutions de marché dans le faire en même temps, et certaines publiques et d'autres privées, c'est plutôt le choix et les arbitrages qui vont être à faire du côté, par exemple, du monde marchand. Qu'est-ce que le monde marchand va choisir s'ils doivent investir entre un Wiro en quelle voie peut-être potentiel, mais un euro numérique ou une identité numérique qui seront de toute façon obligatoires. Et c'est peut-être plutôt ça le point focal. Nous, le fait que les banquiers veuillent suivre, j'allais dire, ça fait longtemps qu'on a compris qu'on n'avait plus trop le choix. Mais les autres acteurs ont la chance de pouvoir faire des arbitrages. Et c'est peut-être là qu'il y a un petit point de compétition publique-privée sur lequel il faudrait s'attarder.
Mais justement, est-ce que ce n'est pas complémentaire? Parce que finalement, on est en complément.
Gérer une logique d'ailleurs que ces acteurs-là
commerce, y compris avec les grands teams internationaux, et celui d'une garantie financière avec probablement des sujets de collatéraux. Donc la réponse est oui, on est effectivement ouvert à tous les membres, mais la réponse est aussi oui, en tant qu'actionnaire du STIL, on a un droit de regard a priori sur la solidité financière des membres et des futurs membres qui vont nous rejoindre. Justement pour que ce système fonctionne et que les marchands ne soient pas inquiets par rapport à la garantie financière qui leur aura été donnée.
C'est pas du tout la question. Et si c'est un mot de plus, merci. Non ? C'est bon ?
Non.
Très bien.
Encore une autre question. Il y a d'autres questions un petit peu plus techniques, peut-être pour Laetitia. On a une question, est-ce que le QR code qui est utilisé est un QR code signé ? Est-ce que, et qu'il signe, quel est le type de certificat qu'il est signé ?
Voilà.
Ouais, c'est une question extrêmement compliquée. Je suis pas sûre d'avoir
un magasin. Vincent, c'est pas grave. Vincent, peut-être que tu peux nous éclairer aussi.
Désolé, je ne connais pas le détail de l'implémentation QR code, puisqu'elle
est
bien inspirée de la Belgique, mais je suppose que c'est un certificat, que c'est un QR code signé.
On pourrait dire que c'est conforme à la régulation et aux travaux qui sont menés dans le cadre des groupes européens. Sur l'utilisation du QR code dans la configuration site-unique. Donc oui, on répond aux meilleurs standards de sécurité à ce sujet, avec le QR code qui va bien et qui, pour en faire un parallèle, n'est pas celui que utilise ou ont longtemps utilisé les teams chinois, par exemple.
Très bien. Didier, si vous voulez.
On va standardiser ce sera.
Nous, pour le QR code, on a un QR code générique qui est compatible avec tous les moyens de paiement en Allemagne, en Belgique et dans plein d'autres pays européens, mais pas en France, vu qu'on n'est pas acquis en France. Et on va réutiliser ce QR code dans le cadre de l'Euro, donc on est très contents.
Très bien.
Il y avait une dernière question que si Pascal Girard est toujours en ligne, je préférais qu'il la pose directement. Et c'est toujours aussi au côté du QR code versus NFC.
En attendant, il y a aussi une question sur les solutions de paiement en crypto-paiement. Alors, Dani, c'est une question de Mehdi Labani. Comment envisagez-vous de juxtaposer la solution bureau, le paiement bureau, auprès des commerçants en permettant une cohabitation avec des solutions de paiement de type crypto-paiement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par cette question pour répondre à Mehdi?
Je rappellerai juste qu'il y a une question vraiment de pragmatisme pour le moment. Faisons déjà de Miro un usage quotidien et la question des crypto-monnaies se posera en temps voulu.
Oui, et moi je peux peut-être donner un cadre plus global à la question. J'en reviens à la différence essentielle entre un moyen de paiement et un team. Et on sait tous, c'est du travail, et effectivement c'est sur la table, mais n'importe quel moyen de paiement à un moment donné peut être intégré dans les règles d'un team, l'inverse n'étant pas vrai. Et donc effectivement, le moyen de paiement par crypto-monnaie, eh bien, Wero étant un team, vous voyez dans quelle direction je vais. Mais c'est bien ça l'idée, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête.
Parfait. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous en restions là. Je voulais d'abord remercier nos orateurs d'avoir clarifié ce paysage. Je voulais remercier les 57 participants sur les 85 qui ont été présents d'avoir résisté jusqu'au bout et d'avoir écouté cette conférence. Je crois que c'est très important qu'on revienne, et je pense qu'on était ravis de le faire au début de l'hiver, sur justement le point sur Wero pour voir la dynamique et voir comment continuer à la développer. Nous, à France Payment Forum, comme vous le savez, on va continuer nos rencontres digitales, nos webinars, comme celui d'aujourd'hui. Et nous avons 10 GT, donc chacun des GT va essayer d'organiser des tables rondes sur différents sujets. Cette table ronde monde d'aujourd'hui a été organisé par notre GT règle évolution déploiement sur les flux. Le GT carte aussi prépare. Le GT crypto, puisque Mehdi l'a parlé, l'a évoqué, va organiser fin novembre une matinée entière sur ce sujet. On va faire aussi sur l'euro numérique, sur beaucoup de sujets. Voilà, on va continuer à multiplier les rencontres pour éclairer les enjeux et les choix sur le marché. Et on va, bien sûr, comme les années précédentes, au printemps prochain, organiser notre FETIT, qui va être pas trop loin de la journée que va organiser carte bancaire fin mars l'année prochaine. Donc on se centrera sur des sujets non cartes pour ne pas faire doublon avec ce que fera carte bancaire. Par contre, en juin, on fera notre grande rencontre annuelle et là, la carte sera au prochain rang. À Bébiro, bien entendu. Merci beaucoup les amis et donc à notre prochaine rencontre digitale et à nos prochaines événements. Et puis surtout, tous ceux qui ne sont pas membres de France Payment Forum, venez regarder sur notre site tous les membres, toutes les grandes banques françaises sont membres de France Payment Forum, les grands acteurs de paiement et aussi les plus petits, les structures de conseil sont membres de notre association. Rejoignez-nous, vous avez tout à fait dans le groupe de travail pour bénéficier de nos newsletters mensuels et pour participer à nos rencontres, notamment à nos réunions plénières mensuelles et à nos événements.
Merci
et à bientôt, au revoir.
Oui, merci Hervé, merci Vincent, merci Laetitia, merci Didier, merci Marianne.
Merci à tous.
Merci pour votre attention.